VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du 2 février 2017. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Jean-Roger Bion. Bonjour, pour commencer les titres.
Donald Trump a nommé un juge conservateur, Neil Gorsuch, au 9e siège vacant de la Cour suprême des États-Unis.
En République démocratique du Congo, des combattants de l'ex-groupe rebelle du M23 accusés d'avoir capturé et torturé les membres d'équipage d'un hélicoptère de l'armée qui s'est écrasé la semaine dernière dans l'est du pays.
En Mauritanie, libération d'un journaliste et opposant condamné en juillet 2016 pour avoir lancé sa chaussure sur un ministre.
Israël annonce la construction de 3000 logements de colonisation en Cisjordanie occupée.
Regain d'affrontements hier dans l'est de l'Ukraine entre l'armée de Kiev et les rebelles pro-russes.
Et ne manquez pas notre journal de la CAN au Gabon, ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Donald Trump a annoncé hier soir la nomination du juge conservateur Neil Gorsuch, 49 ans, au 9e siège de la Cour suprême des États-Unis, laissé vacant depuis la mort en février 2016 du juge Antonin Scalia, héros de la droite conservatrice. Barack Obama, le prédécesseur démocrate de M. Trump, avait proposé le magistrat progressiste modéré Merrick Garland en mars pour le remplacer, mais le Sénat, dominé par les Républicains, avait refusé d'examiner sa nomination. Étant donné l'âge avancé de certains des juges actuels de la Cour suprême, Donald Trump pourrait être amené à remplacer durant son mandat d'autres membres de l'institution.
De l'avis des observateurs, il s'agit donc là d'une décision lourde de conséquences pour l'évolution de la société américaine. La sélection du juge Gorsuch a été immédiatement louée par les républicains et critiquée par les démocrates. Le juge Gorsuch a des capacités juridiques extraordinaires, un esprit brillant, une discipline remarquable, a déclaré Donald Trump depuis les salons de la Maison-Blanche, en présence des principaux ténors républicains et de ses fils Eric et Donald Jr., assis au premier rang.
Neil Gorsuch, dont les premières prises de position vont désormais être passées au crible par les élus du Sénat, s'est engagé à être un fidèle serviteur de la Constitution américaine. Les républicains devraient-ils s'attendre à un retour de bâton du camp démocrate après ce qu'ils ont fait à M. Obama et à son choix, Merrick Garland?
Ailleurs dans le monde, en ce mercredi 1er février 2017, en RDC, des combattants appartenant à l'ex-groupe rebelle du M23 ont capturé et torturé les membres d'équipage d'un hélicoptère de l'armée de la République démocratique du Congo qui s'est écrasé la semaine dernière dans l'est du pays, a annoncé mardi l'état-major des forces armées de RDC. 3 des 4 membres d'équipage ont péri après avoir été torturés, précise l'armée. Selon l'agence Reuters qui rapporte la nouvelle, le général Léon Mouchalet a ajouté que l'équipage avait été capturé après la chute de l'hélicoptère et livré au chef militaire du M23, Sultani Makenga. Un représentant du M23 a nié la présence de ses combattants au Congo, selon l'agence Reuters.
Toujours en RDC, libération de 53 personnes qui étaient accusées d'être des membres de la milice de Kamuina Nsapu, un défunt chef coutumier du Kasaï central, opposé au régime du président Joseph Kabila. Les précisions, Eddy Issango.
43 adultes et 10 enfants qui étaient en détention préventive depuis au moins 2 mois ont été relâchés. En échange, ils ont signé un document dans lequel ils promettent de ne plus s'engager dans un mouvement insurrectionnel. Les 10 mineurs ont été confiés à l'UNICEF à Kananga pour être ensuite admis dans un centre de réinsertion. Depuis septembre 2016, les Kasaï central est le théâtre des violences à répétition. Selon l'ONU, 140 personnes au moins ont été tuées dans des affrontements. La dernière vague de violences a eu lieu vendredi. Les partisans de la milice protestaient contre l'arrivée du Premier ministre Sami Badibanga et demandaient le départ du gouverneur de province Alex Kandé. La visite du Premier ministre a finalement été annulée. Kamuina Nsapu, un médecin âgé d'une trentaine d'années rentré d'Afrique du Sud en avril 2016, avait lancé le mouvement, mais a été tué dans une opération de police après avoir contesté l'autorité du pouvoir central à Kinshasa.
En Mauritanie, un journaliste et opposant condamné en juillet 2016 pour avoir lancé sa chaussure sur un ministre a été libéré hier à la faveur d'une réduction de peine à l'issue de son procès en appel. Jacques Aristide.
Le journaliste Sheikh Bayould Mohamed avait été condamné à 3 ans de prison ferme le 14 juillet 2016 pour outrage et violence contre une autorité publique. L'incident s'est déroulé lors d'un point de presse du ministre Mohamed Lemine Ould Sheikh, porte-parole du gouvernement mauritanien, lorsque le reporter lui avait lancé sa chaussure sans l'atteindre, le qualifiant de ministre du mensonge. Il avait été maîtrisé par les policiers, arrêté et détenu avant d'être inculpé et écroué le 11 juillet. Jugé en appel à Alleg, où il avait été transféré peu après sa condamnation, Sheikh Bayould Mohamed a été condamné à une peine réduite à 1 an de prison, dont 7 mois ferme, et le reste avec sursis, vu qu'il a déjà purgé la peine de prison ferme, la justice a ordonné sa libération. Sa condamnation avait suscité de vives protestations de son mouvement, dit mouvement du 25 février, né dans le sillage du printemps arabe et opposé au président Mohamed Ould Abdelaziz.
Le Parlement tunisien a adopté hier un projet de loi autorisant le vote des forces de sécurité et de l'armée aux élections municipales et régionales, des scrutins très attendus 6 ans après la révolution. Arzouma Compaoré.
Depuis la chute de Zine El Abidine Ben Ali en 2011, les municipalités tunisiennes sont gérées par des simples délégations chargées de liquider les affaires courantes. L'Assemblée des représentants du peuple a donc adopté hier une nouvelle loi autorisant les votes des militaires et forces de sécurité, environ 130 000 personnes, pour les scrutins locaux. La question de leur droit de vote aux législatives et à la présidentielle n'a pas été tranchée. Début janvier, le président du Parlement, Shafik Sarsar, s'était emporté contre le blocage inadmissible. Le parti islamiste Ennahda, première force avec 69 députés, était réticent, clamant que l'armée et les forces de sécurité devaient rester neutres. Maintenant que le verrou a sauté, l'instance électorale estime qu'il lui faut 8 mois à compter de l'adoption de la loi pour organiser des élections locales, probablement à la fin de l'année.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, la mobilisation contre le décret migratoire ne semble pas devoir s'apaiser. Après les manifestations et l'indignation dans nombre de capitales, le président Donald Trump est confronté à une fronde au sein de l'appareil d'État à laquelle il a répondu avec force. Après avoir limogé avec fracas lundi soir la ministre par intérim de la Justice, le président républicain s'en est pris aussi avec véhémence à ses opposants démocrates au Congrès, les accusant de paralyser le fonctionnement gouvernemental.
En Irak, c'est le choc. Le décret interdisant l'entrée pendant 90 jours du territoire américain aux ressortissants, entre autres Irakiens, afin de stopper, selon Washington, d'éventuels terroristes islamiques radicaux, n'en finit pas de provoquer des réactions. Anastasie Toudiech.
Le premier ministre irakien a affirmé hier qu'avec ce décret, c'est la victime qui est pointée du doigt. Haider el-Abadi a ajouté que son gouvernement examinait toutes les options. Les députés irakiens ont même voté une motion appelant le gouvernement à appliquer la réciprocité si Washington ne revenait pas sur sa décision. Les États-Unis comptent plus de 4 800 soldats en Irak qui soutiennent les forces irakiennes face au groupe État islamique. Des conseillers militaires américains aident actuellement le pouvoir irakien à reconquérir Mossoul, la deuxième ville d'Irak. Lundi, le Pentagone a promis de venir à la rescousse des Irakiens qui ont travaillé pour l'armée américaine pour qu'ils puissent entrer aux États-Unis malgré le décret controversé. Le statut des pilotes irakiens s'entraînant actuellement sur une base aérienne en Arizona n'est pas tout à fait clair.
Israël a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi la construction de 3000 logements de colonisation en Cisjordanie occupée, quatrième annonce du genre en moins de 2 semaines, depuis l'investiture du président Donald Trump.
L'Est de l'Ukraine a connu mardi un regain d'affrontements entre l'armée de Kiev et les rebelles pro-russes près d'Avdiivka sur la ligne de front où des milliers de civils sont sans électricité ni chauffage, suscitant l'inquiétude de l'Union européenne et de l'ONU. Exprimant ses graves inquiétudes devant cette évolution, le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé au rétablissement immédiat du cessez-le-feu en vigueur.
Alors, tout de suite, sur VOA Afrique, le journal de la Cannes, présenté par Nicolas Pinault.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous. La première demi-finale de la CAN, c'est ce soir, 19h, temps universel à Libreville, entre le Burkina Faso et l'Égypte. C'est l'heure de vérité. Le Burkina Faso est pressé d'arriver en finale, a déclaré hier le défenseur des étalons, Bakary Koné, en conférence de presse. Et pour Hector Cuper, l'Argentin à la tête de l'Égypte, il faut jouer ce match et ne pas regarder le passé glorieux des pharaons. On retrouve sur place pour en parler l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon, Timothée de Nangmaï.
L'important pour le Burkina Faso est de s'être qualifié pour la demi-finale, a déclaré le coach Paulo Duarte avant de juger l'adversaire.
L'Égypte, ils défendent bien, ils défendent beaucoup. C'est caractéristique du modèle de jeu de son coach. Qui reste 4 ou 2 toujours derrière auquel vont pour l'attaque. L'attaque pratiquement avec 4 joueurs, parfois 5 joueurs. Ça, c'est le style de cette équipe.
En allusion au prestigieux palmarès de l'Égypte en Coupe d'Afrique des Nations, Paulo Duarte a fait remarquer qu'à chaque match correspond une histoire, une époque et même une équipe différente. Le coach de l'Égypte, Hector Cuper, a lui aussi tenu à souligner que l'histoire est importante, mais pas aussi importante que cela.
Et évidemment, l'Égypte a gagné 7 Copas d'Afrique, non, aucune doute.
Alors, quand je prie cette équipe d'Égypte, je connaissais bien sûr le passé de l'Égypte dans la Coupe d'Afrique des Nations. Mais bon, on ne peut pas se passer de l'histoire. Maintenant, nous sommes beaucoup plus appesantis sur nos ambitions personnelles qui étaient de se préparer pour cette Coupe d'Afrique des Nations et également pour les éliminatoires de la Coupe du Monde.
Hector Cuper a assuré que son équipe a le talent, l'enthousiasme et la détermination nécessaires pour gagner. En somme, une grande demi-finale en perspective. Timothée Donangmaï, Libreville, VOA Afrique.
Demain, place à la demi-finale entre le Cameroun et le Ghana. Léger avantage aux Black Stars qui joueront leur 6e demi-finale d'affilée. Tandis que les Lions indomptables n'avaient pas atteint ce niveau depuis 2008. Retour sur ces 2 demi-finales avec Jules Valentin-Goué dans son coup de sifflet.
Bonsoir. Le ciel s'éclaircit progressivement dans cette CAN gabonaise 2017 qui a finalement dévoilé son carré d'as avec une représentation équilibrée comme l'a été tout le tournoi. L'Afrique du Nord a un représentant sur 4, l'Afrique centrale 1/3 et l'Afrique de l'Ouest avec ses 2 représentants sur 7 au départ voit sa suprématie de ces dernières années proportionnellement atténuée. Les affiches ultimes avec un Burkina Faso, Égypte à Libreville et un Cameroun Ghana à Franceville dévoilent en fait la suprématie des groupes A et D là où les supposées poules de la mort ont accouché d'une souris. Le suspense qui a accompagné la compétition reste présent à la veille des oppositions peu attendues des demi-finales. Tout le monde avait oublié que le Burkina Faso, finaliste brillant de l'édition 2013, n'était pas là par hasard puisqu'il reconduit intégralement un groupe arrivé à maturité, ce qui lui donne paradoxalement un statut de favori face à une formation égyptienne solide comme à l'accoutumée, mais quand même en cours de reconstruction. Le Cameroun Ghana de Franceville voit aussi les Black Stars, vice-champions d'Afrique en 2015, revenir avec le même effectif revanchard pour un succès qui leur avait échappé par malchance à la dernière édition. Mais ils doivent se souvenir que le Cameroun qu'ils ont peu affronté est tout de même la seule équipe qu'ils n'ont jamais battue à la CAN, concédant même une défaite pour un nul. Vous l'avez compris, ne pariez pas. Le suspense initial s'entête à perdurer. Soyez patients. À demain.
Voilà, c'est la fin de ce journal de la CAN. Prochain point sur le tournoi ce soir sur VOA Afrique. Et rendez-vous sur notre page Facebook et notre site voaafrique.com. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seduya, VOA Afrique. À partir de Washington, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Nous commençons par la Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
La Côte d'Ivoire continue d'avoir le vent en poupe. Depuis 2012, le trafic à l'aéroport d'Abidjan est en hausse continue. Gilles Dariot, directeur général de l'aéroport, précise que l'objectif pour 2017 est de dépasser les 2 millions de passagers. Selon le magazine Jeune Afrique, le retour de la compagnie Corsair en 2016 a fait baisser les prix, ce qui incite beaucoup de voyageurs d'Afrique de l'Ouest à passer par Abidjan. La CEAC et la CDAO vont dégager un montant de 930 millions de francs CFA pour lancer le Centre interrégional pour la sécurité au Cameroun. Selon nos confrères de Financial Afrique, la nouvelle équipe dirigeante du Centre interrégional de coordination pour la sécurité et la sûreté maritime en Afrique centrale s'installera au Cameroun le 22 février prochain. Déploiement d'Internet sur le continent, l'Afrique est un marché majeur mais très inégal. Le continent compte désormais près de 281 millions d'internautes pour un taux d'accès moyen d'à peine 23% selon les derniers chiffres de l'Internet Live Stats, membre du projet Real Time Statistics. En tête du palmarès des pays où le taux de pénétration est le plus important, on retrouve les Seychelles, le Maroc et l'Afrique du Sud.
Les décrets de Donald Trump limitant temporairement l'accès au territoire américain à des citoyens venant de sept pays majoritairement musulmans, dont l'Irak, continuent de faire des vagues dans l'opinion. Idriss Fall a joint en Mauritanie Daouda Niang, qui a fait la guerre en Irak avec l'armée américaine et a maintenant peur de ne pouvoir revenir aux États-Unis.
Malheureusement, je peux être concerné parce que je suis citoyen qui a gagné sa nationalité à partir de la guerre en Irak, étant soldat. Je suis un vétéran de l'armée américaine. C'est une décision vraiment injuste qui condamne des gens qui n'ont rien à faire avec le terrorisme. Ils sont victimes même du terrorisme dont Donald Trump veut protéger les Américains. C'est une décision qui n'a rien à voir avec la sécurité des États-Unis. Ces Irakiens, ces Syriens, ces Yéménites, c'est des gens qui travaillaient avec l'armée américaine sur le terrain. C'est des gens qui nous apportaient beaucoup d'informations concernant les terroristes. Donc, ils sont victimes à la fois des terroristes et à la fois du gouvernement actuel américain. C'est vraiment injuste.
Est-ce que vous pensez que ça va vous empêcher de revenir aux États-Unis?
Je suis un blessé de guerre et vétéran de l'armée américaine. Ça peut m'empêcher de rentrer aux États-Unis. Je suis en train de parler avec mon avocat pour voir est-ce que la décision me concerne ou concerne tout autre vétéran qui se trouve à l'extérieur des États-Unis. Et vraiment, c'est la grande surprise. Je ne peux pas comprendre. On est blessé de guerre, on est des Américains de nationalité et ils veulent nous empêcher de rentrer. Et j'attends de voir de plus clair pour prendre une décision de rentrer ou bien de rester.
Et vos amis qui se trouvaient en Irak?
Malheureusement, ils sont là-bas bloqués, ils ne peuvent pas rentrer aux États-Unis. Et pourtant, le gouvernement américain les a donné l'autorisation de rentrer. Tous les gens qui ont collaboré avec l'armée américaine durant l'occupation américaine en Irak, qui doivent être protégés, donc ils ont bénéficié de cette décision de l'ancien régime américain. Et maintenant, Donald Trump vient, il veut leur refuser cette protection. Vraiment, c'est aberrant. Je n'arrive pas à comprendre comment il a dû prendre une décision pareille. Et je crois que dans l'avenir, on aura des problèmes pour créer des alliances, combattre le terrorisme parce qu'on sera pris comme des traîtres.
Est-ce que vous pensez que la mesure elle-même peut être efficace dans la lutte contre le terrorisme?
Nul et non avenu. La mesure ne peut en aucun cas être une réponse pour lutter contre le terrorisme. Il n'y a pas de terroristes qui sont des réfugiés ou bien des terroristes qui viennent de l'Irak. Rappelez-vous très bien, ces terroristes ont été nourris par une terre qui se trouve ailleurs, qui n'est pas l'Irak. Vous vous rappelez de septembre 11, il y a plus de Saoudiens et des Égyptiens que des Irakiens ou bien des Afghans. Donc, je n'arrive pas à comprendre. C'est une décision populiste. Il faut comprendre la mentalité de Donald Trump. On connaît les populistes, ils ont des idées qui charment les gens, mais à la fin, c'est toujours le chaos. On se rappelle partout dans le monde. Et c'est en quelque sorte des nationalistes conservateurs qui n'ont rien à voir avec l'évolution de la société mondiale actuelle.
Eh bien, c'était Daouda Niang, originaire de Mauritanie. Il a fait la guerre en Irak avec l'armée américaine. 184 Burundais arrêtés depuis plus de 14 mois en RDC ont été extradés ce mardi par les autorités congolaises sous la supervision de la commission conjointe de vérification de la CIRRGL sous le regard du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et du CICR. De Bujumbura, Christophe Kurunziza.
De l'autre côté de la frontière, un gros camion fermé du ministère congolais de la Justice amène les prisonniers burundais escortés par des militaires de la RDC. Après plusieurs heures d'échanges entre le gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Tshishambo, la CIRGL, le CICR et le HCR et la MONUSCO, ces Burundais emprisonnés à Bukavu depuis plus d'une année peuvent enfin fouler le sol burundais. Et non, les noms de ces extradés burundais est élu par les agents de la douane du côté burundais, la ministre de la Justice, le procureur général de la République ainsi que le gouverneur de la province de Bujumbura Rural leur ont souhaité la bienvenue tout en déclarant que la justice va faire son travail conformément à la loi. Le gouverneur de la province du Sud Kivu, Marcelin Tshishambo, affirme que ces jeunes gens lui ont signifié qu'ils ont été trompés par des politiciens mais qu'ils veulent regagner le bercail.
Quand quelqu'un est fatigué de rester en exil, il doit pouvoir rentrer chez lui. Le tout, c'est que ça se passe en respectant les normes. Et il y a l'enthousiasme au retour. Hein. Et ceux qui ne veulent pas rentrer, on ne les a même pas amenés ici. Mais il y a 184 qui doivent repartir, mais il faut respecter les normes. Il y en a qui ont dit qu'ils étaient burundais, demandeurs d'asile au Rwanda. Ils ont quand même traversé la frontière en étant toujours demandeurs d'asile au Rwanda. Dans ce cas-là, il faut attendre que les procédures se passent comme il faut. Nous les avons arrêtés. Quand quelqu'un n'a pas le document, on l'arrête, hein, dans tous les pays du monde. Moi, je les ai ramassés en prison. Je n'ai pas demandé au directeur de la prison, vous les avez trouvés où? Ils m'ont même coûté deux vaches pour les fêtes de fin d'année, hein, avec les prisonniers congolais. Ça a pris du temps, on n'a pas arrêté tout le monde le même jour. Hein. Moi, je les livre au gouvernement burundais. Le gouvernement burundais est signataire des accords internationaux. Je n'ai pas demandé à quelqu'un s'il était rebelle. Si c'était un rebelle, la procédure serait tout à fait différente. Ils n'étaient pas dans les camps de réfugiés, ils étaient en prison. Non, c'est les prisonniers qui étaient fatigués de rester en prison pour rien. C'est le grand lac. Hein.
Le chef du bureau de la mission des Nations Unies en RDC estime qu'il faut tout faire pour que la paix revienne dans la région des Grands Lacs, tout en respectant les droits de l'homme. Charles Frispi.
La MONUSCO est là pour suivre le dossier, parce que dans le domaine des droits de l'homme, on a des responsabilités de bien suivre le dossier pour nous assurer que les droits humains sont respectés et que les autorités que je vois le prennent en sérieux, respectent le même cadre.
Au moment de cette extradition, toutes les activités économiques sur la frontière de Gatumba entre le Burundi et la RDC étaient paralysées pendant plusieurs heures. Le porte-parole de la police a confié à la presse que ces Burundais seront acheminés directement via les services de renseignement. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Dans le nord du Burkina Faso, des enseignants affirment avoir reçu des menaces d'hommes armés, leur intimant l'ordre d'enseigner désormais l'arabe et le Coran. Parmi les enseignants qui ont fui la zone, Ilyasa Sawadogo, joint par Bagasikoura.
Il y avait deux hommes armés à moto qui sont arrivés, disant de fermer l'école. Ou, si on veut rester à l'école, on enseigne l'arabe ou bien on quitte.
Et comment vous avez réagi?
Bon, devant une arme que tu n'as jamais vue, la réaction est claire, on a obéi. Les gars étaient en tenue de nos militaires.
Et c'est des hommes que vous connaissez?
Non, ils étaient cagoulés, des angoulés, donc l'autre était à visage découvert, mais je le connais.
Et en ce moment, vous continuez à enseigner ou est-ce que les écoles sont fermées?
Non, des gens qui ont dit de ne pas rester. Ils revenaient nous trouver là-bas. Et ça, c'est une prévention. Ils viennent de nous prévenir. Et ils reviennent nous trouver, donc il n'y a plus de mesures sur feu. Dans ça, moi, en tout cas, je ne peux pas dire qu'il y a quelqu'un à l'école. Alors, moi, précisément, je ne suis pas à l'école.
Oui, vous n'êtes pas à l'école. Est-ce que c'est la seule école qui a été menacée?
Ce n'est pas la seule école d'après les paroles, mais ce que moi j'ai vécu, que je peux parler dans les autres écoles. En tout cas, j'ai reçu j'ai eu les informations qu'il y a d'autres écoles aussi qui ont été menacées.
Donc en ce moment, les écoles sont fermées dans le cercle de Nansumbu.
Je ne suis pas actuellement dans la serre.
Oui.
Donc je ne peux pas dire que toutes les écoles sont fermées. Oui. Je ne pense pas repartir.
Vous n'êtes pas là-bas à cause de la situation sécuritaire?
Voilà, réellement, parce que j'ai reçu des menaces, donc je ne peux pas. Des gens qui disent que si je passe l'information, là où je pars, ils vont me retrouver. Donc je pars. Même dans la zone, je pense que je ne peux pas, parce que c'est difficile de vivre, de voir ça. Passe à toi et puis tu vas dire que tu vas répartir.
Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres confrères qui sont dans votre situation, qui ont aussi abandonné leur poste?
Non, à l'école, je suis avec des collègues. Donc, en tout cas, je pense qu'il y a quelqu'un toujours à l'école. En tout cas, on m'a trouvé à l'école, mais les autres étaient... Bon, ils ont eu des informations avec moi, donc personne n'est là-bas en tout cas.
Et où sont les forces de sécurité alors dans la zone?
C'est difficile de répondre à cette question.
Vous ne les voyez pas alors?
En tout cas, je dis que je les ai vus ce jour, je ne les ai pas vus ce jour. J'ai bougé là-bas sans les voir. En tout cas.
Et qu'est-ce qu'il faudra pour que vous vous retourniez là-bas?
Retourner dans la même école?
Oui, dans la zone pour travailler, puisque vous êtes fonctionnaire.
Oui, exactement, je suis fonctionnaire, mais la vie avant tout. Pour retourner dans la même école, il faut de la sécurité. Maintenant, ils sont venus à l'école. Sinon, dans les villages, ils venaient tirer sur les gens. Il tue les gens un à un dans le village, bien sûr, ils me connaissent. Donc, je ne peux pas dire que je vais repartir là-bas comme ça. Même mes affaires sont là-bas, je ne pense pas aller les ramasser moi-même.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Et c'était Ilyasa Sawadogo qui est enseignant au Burkina Faso. Maintenant, le Conseil de sécurité des Nations Unies a prorogé d'un an l'embargo sur les armes à destination de Centrafrique. Une décision prise le 28 janvier dernier alors que le pays espérait la levée de cette sanction. Notre correspondant Freeman Sipila a tendu son micro à des Centrafricains pour recueillir leurs réactions.
Cette nouvelle inattendue a créé des frustrations dans tout le pays. Les Centrafricains qui espéraient voir la levée de cet embargo ont été surpris d'apprendre sa prolongation. À Bangui, l'homme de la rue n'est pas resté indifférent.
C'est une chose inacceptable. On ne peut pas être dépendant de cet pays. Nous devons avoir l'initiative d'être autonome. Des reports.
Je crois que c'est pas normal, puisque c'est pas pour la première fois.
Si maintenant on va de report en report, quand est-ce que RCA aura sa souveraineté en matière de sécurité?
Nous sommes très conscients que c'est nous-mêmes qui dépendons de notre sécurité et nous voulions ce que les forces armées centrafricaines assurent la sécurité des Centrafricains.
La Ligue centrafricaine des droits de l'homme dit ne pas être surprise de cette décision. Pour elle, il ne s'agit pas d'un embargo, mais plutôt d'une punition du peuple centrafricain. L'ancien ministre de la Défense, Joseph Bindoumi, est son président.
Moi, je vous dis, en tant que défenseur des droits de l'homme, que le maintien ou la prolongation de l'embargo ne devrait pas se calculer en termes de formation des militaires ou pas, ça devrait se calculer en termes de nombre de personnes qui vont encore mourir. Nous sommes membres des Nations Unies. Nous ne devons pas être là en train d'être punis. L'embargo, aujourd'hui, n'est pas considéré comme une sanction des Nations Unies, mais comme une punition du peuple centrafricain.
À l'Assemblée nationale, les députés ont à plusieurs reprises interpellé les nouvelles autorités sur les démarches menées en faveur de la levée de cette sanction. Jean Bosco Namtoa, député de Bouka 1, se dit déçu.
Moi, je suis totalement déçu parce que un État sans son armée n'est pas un État. Dans nos provinces, il y a l'insécurité qui règne. La population souffre. Alors, cette population a besoin de son armée. Mais dire qu'on a prolongé la levée d'embargo, vraiment, je suis totalement déçu de la situation.
De son côté, le gouvernement se veut optimiste. Le ministre de la Défense, Joseph Yakété, indique que malgré cette prolongation, il existe des alternatives pour réarmer les forces de défense et de sécurité centrafricaines.
Je crois que c'est un coup dur pour notre pays. En même temps, c'est prévisible parce que l'expérience nous montre que partout là où il y a eu l'embargo sur l'importation des armes, l'embargo ne s'est jamais levé d'un seul coup. Ça a été de façon progressive. Je me satisfais aussi d'un aspect, c'est qu'aujourd'hui, si nous répondons à un certain nombre de critères définis par le comité des sanctions, nous avons la possibilité de nous procurer donc l'armement qu'il faut pour équiper nos soldats qui ont fini leur formation.
En 2014, le Conseil de sécurité de l'ONU a imposé un embargo sur les armes à destination de la République centrafricaine alors que le pays était en proie à des violences intercommunautaires. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et Daniel Brown pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction, Iris Assedulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.